Le journal David Sanchez.
Bonsoir. Surchargé, AdMed travaille à plein régime pour analyser les résultats des tests PCR. Selon son directeur adjoint, la situation du laboratoire neuchâtelois pourrait s'améliorer en arrêtant de confirmer les résultats des antigéniques positifs par un PCR. La ville de La Chaux-de-Fonds veut acquérir la villa Fallais. Elle a trouvé un terrain d'entente sur un prix avec les actuels propriétaires pour ce premier bâtiment qui porte la patte du futur Le Corbusier. Le conseil général aura le dernier mot, probablement en mars. Le congé maternité de la fonction publique neuchâteloise ne doit pas être réduit à 16 semaines. C'est le point de vue de la gauche, des syndicats et des mouvements féministes qui se mobilisent pour contrer cette proposition de la droite. La grisaille sera de retour ce soir et cette nuit, au moins jusqu'à 1200 mètres. Entre les températures froides et une bise persistante, les gelées vont se généraliser. 24 602 nouvelles infections au coronavirus ont été recensées ces dernières 24 heures en Suisse et c'est certainement en dessous de la réalité. Déclaration de Virginie Masseret de l'Office fédéral de la santé publique cet après-midi à Berne. Le pic de la vague Omicron est attendu dans 2 semaines, a renchéri la présidente de la Task Force scientifique de la Confédération, Tania Stadler. D'ici là, on pourrait avoir 2 doublements du nombre de cas. 10 à 30% de la population pourrait être infectée en une semaine. Et dans la foulée, 80 à 300 personnes de plus pourraient être admises aux soins intensifs. Le modèle de la Task Force a de quoi effrayer. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle modélise une forme d'apocalypse qui ne se produit pas. À quoi sert donc un tel modèle, Virginie Masseret?
Les modèles sont toujours des modèles. Hein. C'est une façon d'essayer de se projeter dans l'avenir sur ce qui pourrait arriver. Et en général, ça sert à éviter que ça arrive. Le fait de se représenter ce qui pourrait arriver permet de prendre des mesures, de changer les attitudes et de faire en sorte qu'on évite d'arriver dans la situation qu'on peut prédire sur la base des données actuelles. Les modèles sont toujours utiles, mais sont toujours à prendre avec beaucoup de précautions et d'esprit critique. Ce n'est pas une prédiction de ce qui va arriver, c'est une projection de ce qui pourrait arriver si on ne change rien à la situation actuelle. Le fait de parler comme ça de cette évolution permet aussi à tout un chacun de se poser la question s'il en fait déjà assez lui-même au plan individuel. Actuellement, il y a une forte augmentation des vaccinations de rappel, par exemple. Ça, c'est une mesure très importante qui pourra avoir un impact.
Des propos recueillis par Serge Jubin. Pour sa première séance ordinaire de 2022, le Conseil fédéral devrait prendre de nouvelles mesures, notamment pour réduire la durée des quarantaines. Faut-il encore confirmer un test antigénique positif par un PCR? C'est la question que se pose le laboratoire de microbiologie neuchâtelois AdMed. Il est actuellement surchargé par les demandes de dépistage des institutions cantonales. Hôpitaux, centres nomades ou encore EMS envoient chaque jour leur échantillon pour dépister le Covid-19. Plus de 500 kits sont analysés quotidiennement par le laboratoire. Pour Reto Lienhardt, directeur adjoint d'AdMed, il faut repenser l'usage des tests antigéniques.
Quand on a testé chez nous 30 kits antigéniques, donc chez nous c'est le groupe BAL, CHUV et La Chaux-de-Fonds, parmi lesquels une quinzaine devait être éliminée parce qu'ils étaient de mauvaise qualité, la plupart ont des sensibilités quand même réduites. Par contre, ces tests-là ont toujours été utilisés dans des contextes de personnes qui ont des symptômes, 4 jours de symptômes maximum. Donc c'est très bien défini. Or, on a utilisé ces tests antigéniques un petit peu n'importe comment. Voilà, pour aller au théâtre, moi, je n'ai pas de symptômes, on fait ces tests-là. Et là, il faut savoir que la sensibilité, on parle de 30%, 40%, donc c'est rien du tout. C'est vraiment très, très mauvais. Donc, on a politiquement voulu utiliser ces tests antigéniques. Pour nous, ça n'a jamais été la cible. Si on voulait surveiller, il fallait surveiller avec des poules ou d'autres manières. Mais pratiquement, il faut bien imaginer, le test, il se fait en 10-15 minutes. Avec la PCR, il fallait attendre quand même des heures. Donc c'est un choix qui n'est pas juste que scientifique, c'est quelque chose de pratique. Pour les positifs, actuellement, il y a tellement de positifs que la valeur prédictive positive, c'est-à-dire la probabilité qu'un positif soit un vrai positif, elle dépasse 95%. On est vraiment dans un cas de figure où il n'est plus nécessaire de vérifier par PCR un positif antigénique. Ça, on est d'accord.
Des propos recueillis par Mathias Delletro et manque de chance pour AdMed, une des machines est tombée en panne aujourd'hui. Conséquence, le délai pour rendre les résultats des tests PCR s'allonge. Il faudra compter entre 36 et 48 heures pour que les personnes dépistées par Nomad soient fixées sur leur sort. un symbole du patrimoine de La Chaux-de-Fonds pourrait tomber dans les mains de la ville. Le conseil communal veut acquérir la Villa Fallais. Ce bâtiment de 1906, symbole du courant régional de l'Art Nouveau, est la première maison sur laquelle a travaillé le futur Le Corbusier aux côtés de ses collègues du cours supérieur de l'école d'art chaudefonnière. Ville et propriétaires ont trouvé un terrain d'entente, mais le prix est pour l'heure tenu secret et le conseil général aura le dernier mot. Cette villa style sapin était en vente pour 1,4 million de francs dans le courant de l'été. Le conseiller communal en charge de l'urbanisme, Théo Ignaelli, défend le choix de la ville d'investir dans ce bâtiment.
La conservation d'un tel patrimoine, comme la valorisation d'un tel patrimoine ne peut qu'intéresser la collectivité publique. Je dirais même que c'est une responsabilité de la collectivité publique de s'intéresser à un tel patrimoine.
La ville de La Chaux-de-Fonds avait un droit de préemption. Alors comment se sont passées les négociations? Est-ce que vous avez fait valoir ce droit de préemption?
Notre objectif était d'éviter d'utiliser ce droit de préemption parce que c'est quelque chose de très violent, le droit de préemption. C'est finalement laisser la vente se faire et juste avant la signature, arriver en se substituant au putatif nouvel acquéreur. Donc, de fait, nous avons pris les devants, nous sommes entrés en contact avec la Wari Sandroma et nous sommes très heureux d'avoir trouvé un terrain d'entente pour l'acquisition de cette villa. Je ne peux pas aujourd'hui formuler le prix parce que nous gardons la primeur pour les commissions compétentes et pour le Conseil général. Un accord a été trouvé et cet accord doit encore être entériné par le Conseil général sur la base d'un rapport qui lui sera présenté à la session du 10 mars.
Théo Ignaelli, conseiller communal en charge de l'urbanisme à La Chaux-de-Fonds, au téléphone de Léonard Reichen. Si la ville souhaite acquérir l'objet, elle ne souhaite pas l'exploiter à terme. Des contacts ont été pris avec plusieurs fondations ou associations, dont celle de la Maison Blanche, autre villa du Corbusier voisine. Pour un congé maternité non tronqué et non raccourci. C'est avec ce slogan que les partis de gauche, les syndicats et les mouvements féministes défendent le droit des collaboratrices de l'État de Neuchâtel de bénéficier d'un congé maternité de 17,4 semaines. La droite propose de le réduire à 16 semaines. Cette proposition s'est immiscée dans un autre débat. La gauche et les syndicats ont déposé un projet de loi et une motion populaire demandant que le congé maternité commence le jour de l'accouchement. Actuellement, jusqu'à 24 jours peuvent être retranchés si la future mère doit cesser son activité plus tôt en raison de sa grossesse. La députée PLR, Béatrice Hennie.
Effectivement, pour le groupe PLR, de réduire le congé maternité d'une femme qui est arrêtée, finalement, c'est indépendant de sa volonté, puisqu'elle est arrêtée pour des raisons médicales. Et puis, on trouvait que c'était effectivement pas juste de réduire le congé maternité d'une femme qui se retrouvait dans une telle situation. Par contre, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la fonction publique neuchâteloise offre 17,4 semaines de congé maternité payé à 100%, alors que dans la majeure partie des entreprises de ce canton, il n'y a que 80% du congé maternité qui est servi pendant 14 semaines. Et puis, on trouvait quand même que la différence, elle était très importante. Et puis, on s'est dit que pour supprimer une inégalité qui, à notre sens, n'a pas lieu d'être avec cette réduction possible, on pourrait faire un compromis et ramener le tout à 16 semaines en disant que finalement, c'est un congé de 16 semaines qui serait versé à 100%, mais qui serait incompressible.
La gauche, les syndicats et les mouvements féministes appellent à se rassembler dans la cour du château le 25 janvier dès midi, jour où le Grand Conseil devrait se pencher sur le dossier. En Suisse maintenant, l'opposition aux 30 km/h s'organise à Lausanne. Une pétition munie de 840 signatures a été déposée aujourd'hui aux autorités politiques pour demander la réintroduction du 50 km/h la nuit. La limitation à 30 km/h, introduite en septembre entre 22h et 6h, doit rester l'exception pour les quartiers résidentiels, selon le texte lancé par les jeunes PLR vaudois. La Confédération ne devrait bientôt plus pouvoir accepter des parrainages d'entreprises privées. La Commission des institutions politiques du Conseil des États a soutenu aujourd'hui de justesse une initiative parlementaire allant en ce sens. Le texte avait été déposé dans la foulée du partenariat envisagé entre le département des affaires étrangères et le cigarettier Philip Morris pour l'Expo universelle à Dubaï. Une idée qui avait fait grand bruit en 2019 et qui ne s'était finalement pas concrétisée. À l'étranger, les États-Unis veulent délier les cordons de la bourse pour l'Afghanistan. L'Agence américaine d'aide internationale a promis aujourd'hui une première enveloppe d'aide de plus de 300 millions de dollars, soit environ 276 millions de francs suisses. Elle entend ainsi répondre à un appel aux dons lancé par l'ONU pour aider le pays plongé dans une grave crise humanitaire. Enfin, près de 200 000 migrants clandestins sont arrivés dans l'Union européenne l'an dernier. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis 2017, a annoncé ce mardi l'Agence européenne des frontières, Frontex. Le nombre d'arrivées irrégulières était de 57% plus élevé qu'en 2020, année où les restrictions imposées par la pandémie de Covid ont réduit drastiquement l'arrivée de migrants. Selon Frontex, le chiffre a toutefois augmenté de 36% par rapport à 2019.
RTN, il est 18h11.
Sport. La première manche du slalom nocturne de Schladming en ski alpin vient de commencer chez les dames. Pour l'instant, c'est Petra Vlova qui mène le bal. Elle est suivie de Lena Dürr et la Suissesse Wendy Holdener est en troisième position. Et la deuxième manche se tient dès 20h45, initialement prévue à Flachau. Cette course a été déplacée à Schladming en raison de la hausse du nombre de cas de Covid-19 dans la station. Le Land de Salzbourg s'est prononcé contre la tenue de l'épreuve de Coupe du Monde. Toujours en ski alpin, les Suisses ont semblé à l'aise à Wengen lors du premier entraînement en vue des descentes de Coupe du Monde prévues ce week-end. Stéphane Rogentin et Beat Feutz ont pris le deuxième et troisième rang de cet entraînement. C'est le vétéran italien Christoph Innerhofer qui s'est imposé. Et Beat Feutz pourrait aussi avoir un adversaire de moins vendredi et samedi. Vincent Kriechmeier devra renoncer aux courses en raison d'un test positif au Covid. Et on termine avec du tennis. Conny Perrin s'est incliné lors du premier tour des qualifications de l'Open d'Australie. La chaudefonnière a été battue en 3-7, 6-3, 4-6, 6-4 par la Suédoise Myriam Björklund. Dans cette partie, qui a tout de même duré presque 2 heures, Conny Perrin n'a pas su renverser la situation. En 14 participations, la jeune femme de 31 ans n'a jamais pu se qualifier pour le tour final d'un des 4 tournois du Grand Chelem. Sa meilleure performance en Australie reste le deuxième tour préliminaire.